Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du Canal M qui vous propose son kiosque magazine du lundi. Lundi 25 mai. Et le lundi, le kiosque ouvre son volet culture et société. Et pour vous présenter ce magazine, à ma gauche, Franceline Nuviard, que nous saluons. Bonjour, Franceline.
Bonjour. Bonjour, Franceline.
Bonjour, tout le monde.
Et Franceline.
Oui, merci, Serge.
Et Serge Hamelin.
Moi-même.
Bonjour, Serge.
Et moi, je dis bonjour, Roger.
Roy.
Roy.
C'est lui.
Les deux.
Et en régie, celui qui va nous guider et nous accompagner ce matin, c'est M. Rémi Hermoso, lui-même, qui nous revient. Alors, qu'avons-nous au programme aujourd'hui, Franceline?
Alors, moi, je vais commencer par quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire mon article s'appelle « Vieillir » par Catherine Anfield dans la Presse Plus du mardi 21 avril 2015.
Merci de nous le rappeler.
Oui, mais c'est là une réalité. Suivi de « Continental ou Mambo, on bouge » par Marie-Josée Lacroix dans Le Bel Âge 2015, de mai 2015. Et ensuite, après la pause, un article intitulé « Mauvais pressentiment, on l'écoute » par Nadine Filion dans Le Bel Âge, de mai 2015 aussi.
Bon, alors moi, je vais vous parler de déménageurs, une enquête par le Protégez-vous.
Oui.
Ben moi, c'est le temps des déménagements.
Oui, bientôt, oui, ça, oui, s'en, oui, ça s'en vient.
Et je vais vous parler du drame grec sous ses fenêtres.
Et moi, je vais vous parler de libération. Libérez-nous du calcul. On parle de mathématiques.
Ensuite,
c'est un dossier de l'actualité
mental.
Sur le nouvel enseignement. Mais pour tout de suite, le top 20 de la confiance. Le top 20 de la confiance.
Ah, ça, j'aime ça.
Oui. C'est nous est proposé par le Reader's Digest.
Ouais.
Et c'est Martine Turenne qui nous propose ce texte. Elle s'est inspirée d'un sondage mené en ligne par Ipsos Reid auprès de 803 Québécois en novembre 2014. Et en présentation de son palmarès du top 20 de la confiance, elle écrit ceci parmi la brochette de personnalités publiques en qui les Québécois ont le plus confiance, qui se sont démarqués. Une constante apparaît, c'est la franchise.
C'est beau.
Qu'ils soient politiciens, animateurs, chroniqueurs ou juges, la plupart ont fait de leur franc-parler une marque de commerce. La confiance cette année va aussi à ceux qui parlent haut et fort pour dénoncer les injustices. Ce qui se dégage de ce palmarès, dit Yves Boisvert, qui est chercheur en éthique et professeur à l'École nationale d'administration publique, c'est le peu de tolérance des gens à l'égard de tout ce qui est malversation et corruption des pouvoirs publics. Les politiciens les plus plébiscités, les Coderre, Labeaume et dans une moindre mesure Thomas Mulcair, n'ont pas la langue de bois, affirme le chroniqueur Richard Martineau, présent pour la première fois, lui, dans notre palmarès annuel. Les gens sont exaspérés par cette langue de bois et on le constate dans les résultats de ce sondage, confirme Steve Flanagan, président de Flanagan Relations Publiques. Il y a beaucoup de cynisme et de scepticisme envers la classe politique, estime de son côté l'animateur Paul Arcan, troisième au palmarès cette année. Alors voici le palmarès au premier rang, Pierre Bruneau. Hein? Le numéro un de notre palmarès, c'est l'homme en qui les Québécois ont le plus confiance, qui reçoit à nouveau cet honneur avec la modestie qui le caractérise. Je suis touché, c'est toujours flatteur. Ce lien de confiance, il l'a bâti au fil de ses presque 4 décennies comme chef d'antenne des bulletins de nouvelles au réseau TVA. On le croit éternel, mais Pierre Bruneau, avance une année à la fois, sachant qu'on le verra vieillir à l'écran vulnérable. La télé, c'est extraordinaire, mais ça nous fragilise pour toujours. Il se dit surtout très heureux d'avoir traversé les générations. Le groupe d'âge qui lui accorde le plus sa confiance est celui des 35-54 ans. Au deuxième rang, la première fois au palmarès, c'est Mario Dumont. La grande force de Mario Dumont, savoir dénicher des sujets qui passent parfois sous le radar, confie le principal intéressé, mais qui ont une importance pour tous les sans-voix, comme il appelle ceux qui, entre le boulot, l'éducation des enfants et les soucis de santé, n'ont pas beaucoup de temps pour faire entendre leurs priorités. Paul Arcan, au troisième rang, l'homme qui pose les questions que tout le monde aurait envie de poser, comme il le dit lui-même aux ministres, syndicalistes, décideurs, comme aux responsables des relations publiques et acteurs de tout acabit, a 25 ans d'expérience derrière le micro et ça s'entend. Paul Arcan, l'animateur de « Puisqu'il faut se lever » au 98,5, l'émission radiophonique matinale la plus écoutée au Québec, cultive l'art de parler directement. À chacun de ses auditeurs, je leur donne une voix, affirme-t-il. Il pose les vraies questions, dit Steve Flanagan, lors de ses formations médiatiques aux dirigeants. Monsieur Flanagan entend souvent la même réflexion au sujet du maître de la déstabilisation. « Je ne veux pas aller chez Paul Arcand. Il est redoutable et intimidant », confie le spécialiste en communication. « Il est dans une classe à part. » Quatrième, Sophie Thibault, à l'instar de ses confrères Pierre Bruneau et Céline Galipeau. Sophie Thibault est une habituée de ce palmarès. Un bel honneur, reconnaît-elle, est crucial. La confiance est la pierre d'assise de notre métier. Ça en prend quand tu livres les nouvelles à 600 000 téléspectateurs devant leur petit écran. Cinquième rang, Denis Coderre, le maire hyperactif de Montréal, au plus de 38 000 tweets, n'est en poste que depuis novembre 2013, mais on dirait une éternité. Son style direct et son langage coloré ont séduit les Québécois et les Montréalais en particulier. Sixième, Véronique Cloutier. C'est la Oprah Winfrey québécoise, la reine des ondes et des médias sociaux, celle qui transforme tout ce qu'elle touche en or. Elle est une diva de la télé, de la radio et dirige son propre magazine. France Charbonneau au septième rang. Depuis novembre 2011, les Québécois associent France Charbonneau au décryptage d'un système mafieux, celui de la collusion et de la corruption. Ainsi, pour la troisième année, la rigoureuse juge figure dans notre palmarès des personnalités en qui les Québécois ont le plus confiance. Huitième rang, Céline Galipeau. La première réaction de Céline Galipeau en apprenant qu'elle figurait une fois de plus au palmarès a été de se sentir émue et privilégiée. Je le prends comme un cadeau, merci. Thomas Mulcair, neuvième. Si la vague orange a connu quelques ratés parmi la cinquantaine de députés élus au Québec, le chef du NPD, Thomas Mulcair, demeure populaire et surtout respecté des Québécois. Dixième rang, Philippe Couillard. Ses opposants disent parfois de lui qu'il manque d'intelligence émotionnelle, mais force est d'admettre que les Québécois lui font confiance. Le nouveau premier ministre obtient un honnête 19 % Chantal Hébert, ses analyses politiques justes et sans compromis sont redoutées de tous les politiciens. Alain Gravel, l'ancien animateur de Enjeu, qui maintenant va passer à la radio de Radio-Canada. 13e, Guy Lepage. 14e, Régis Labeaume. 15e, Julie Schneider et Pierre-Carl Péladeau. C'est le couple le plus médiatisé et sans doute le plus puissant du Québec. Rallie tout à la fois les affaires, la politique, les médias et le show business. Jean-René Dufort au 17e rang, Stephen Harper au 18e rang, au 19e rang, Anne-Marie Dussault, et finalement, pour une première fois, Richard Martineau, qui est le chroniqueur du Journal de Montréal et animateur de télévision. C'est dans la sélection du Reader's Digest du mois de mai, le top 20 de la confiance au Québec, un texte de Martine Turenne.
Alors et maintenant, comment bien vieillir? On a tous des exemples de gens qui vieillissent très vite et d'autres exemples de gens qui, à 95 ans, sont encore forts, se déplacent, vivent chez eux, vagues à leurs occupations quotidiennes, comme ils l'ont toujours fait. Pourquoi? C'est la grande question. Cette grande question, Hélène Payette et quelques 160 chercheurs aux quatre coins du Canada tenteront de l'approfondir dans le cadre de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, la plus vaste étude du genre jamais réalisée au pays. L'équipe de chercheurs, dirigée par le docteur Parminder Rena de l'Université McMaster, suivra sur une période d'au moins 20 ans quelques 50 000 Canadiens de 45 à 85 ans. Le recrutement, qui a cours depuis 3 ans, sera fini dans les prochaines semaines. Les chercheurs pourront dès lors entreprendre le premier suivi. L'objectif ? Mieux comprendre les processus de vieillissement pour aider les gens à mieux vieillir et aider les organisations de la santé et des soins à leur offrir les services adéquats. C'est l'étude sur le vieillissement la plus importante au Canada et l'une des plus importantes internationalement, tant par le nombre de sujets que par l'ampleur des thèmes qu'on va rechercher, indique la docteure Hélène Payette, professeure au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke et co-chercheuse responsable du thème habitudes de vie dans l'étude longitudinale. Tous les 3 ans, les participants devront répondre à un questionnaire sur leurs habitudes de vie, tant sur les plans physiques, social que psychologiques. Plusieurs devront aussi passer une panoplie de tests, mesures de la masse musculaire, de la densité osseuse, échantillons de sang et d'urine, qualité de l'ouïe, du goût, de l'audition. Les résultats, anonymes bien sûr, seront accessibles à tous les chercheurs qui en font la demande. Quoi qu'on fasse, en vieillissant, on perd du goût et de l'odorat. Par contre, certains en perdent plus vite que d'autres. Ce qu'on veut déterminer, ce sont les facteurs qui l'expliquent et comment on peut agir sur ces facteurs. Si les participants sont recrutés dès l'âge de 45 ans, c'est pour mieux cerner les changements majeurs qui surviennent à la retraite. Est-ce que certains aspects de la retraite peuvent influencer la qualité du vieillissement plus tard, demande la docteur Payette. C'est infini à quel point on pourra questionner la banque de données. Le vieillissement est un domaine d'étude relativement jeune. Comme les populations vieillissent, un nombre grandissant de chercheurs s'y intéresse depuis 20 ans, souligne Hélène Payette, qui qualifie ce domaine d'extrêmement stimulant. Les changements qui surviennent après 65-75 ans sont majeurs, dit-elle, d'une importance que l'on ne soupçonnait pas avant. En fait, ces changements sont à peu près similaires en matière de quantité et de vitesse à ceux d'un petit enfant dans les deux premières années de sa vie, souligne Hélène Payette. Un enfant est dans les gains et à la fin de la vie, on est plus dans les pertes. La manière dont on encadre nos tout-petits nous donne d'ailleurs de bons indices sur la façon de mieux vivre son vieillissement. Quand les petits-enfants grandissent, on met tellement d'importance sur leur alimentation, sur l'exercice, sur les jeux qu'ils font avec d'autres enfants, dit la docteure Payette. Ça revient à des choses aussi simples que celles-là. Ce parallèle avec la fin de vie nous donne des pistes souvent, et ce qu'on découvre plusieurs fois confirme ces pistes. Alors, pour nous garder en santé quand on vieillit, on bouge. Continental ou Mambo ? Micheline Geoffrion est presque déçue quand je lui dis au téléphone que je ne suis pas une adepte de la très populaire danse en ligne. J'aime imaginer que ses yeux pétillent quand elle lance « C'est si agréable, c'est pour moi une grande passion ». Elle a longtemps fait de la danse sociale avec son mari, aujourd'hui décédé, avant d'opter pour la danse en ligne. Quand j'ai découvert qu'on l'enseignait à la place des aînés de Laval, ça m'a tout de suite interpellée. Ça fera 20 ans en septembre et je ne m'y suis jamais ennuyée. On ne peut pas s'ennuyer quand on aime la danse puisque ce ne sont jamais les mêmes chorégraphies. Chaque professeur crée les siennes et plusieurs mettent sur pied des clubs ou des associations. Elle s'y adonne à la danse en ligne 3 fois par semaine, dont une fois à l'église Saint-Martin à Laval, et elle participe à des soirées de danse à l'occasion. 2 de ces 3 rencontres sont des cours d'une durée 1h30 à 2h, et la troisième est un entraînement. Là, ça roule. On exécute une 30aine de danses anciennes et nouvelles. La dernière fois, on en a appris une. Depuis 20 ans, elle a appris environ 500 danses. Avec le temps, certaines disparaissent du répertoire, mais d'autres semblent éternelles, comme le continental, la danse de base. Il s'agit de danses classiques, plutôt faciles et parfaites pour les novices. Elles s'exécutent dans les cabanes à sucre, aux mariages, aux anniversaires et même sur les bateaux de croisière. Au Festival Western de Saint-Tite, la danse en ligne country est la vedette. Beaucoup de gens ridiculisent la danse en ligne, déplore Micheline Geoffrion. Mais s'ils venaient voir à quel point on se déplace, ils riraient moins. C'est bon pour le cardio et les muscles, c'est du conditionnement physique. L'important, c'est de bouger. Ses danses préférées sont justement les plus rythmées. Elle raffole de celles qui s'exécutent sur des pas de mambo, de merengue, de cha-cha. Dans les soirées, je peux danser 3 heures sans m'asseoir. Ce loisir est vraiment ouvert à tous. Ça ne prend pas grand-chose de plus que l'amour de la danse, résume notre passionné. Bien sûr, avoir de l'oreille aide à apprendre. Et avoir le sens du rythme ne nuit pas. Ça, on l'a ou on ne l'a pas. Mais ceux qui n'en ont pas beaucoup trouvent le plaisir. Trouvent leur plaisir quand même. Puis, ça enseigne la tolérance et le respect à ceux qui dansent mieux. De toute façon, quand on danse, on ne pense à rien d'autre parce qu'il faut de la concentration. Oui, c'est une belle activité, je la recommande à tous, car en plus, on y crée de beaux liens, on a du plaisir à être ensemble. Voilà, donc c'était cet article Continental ou Mambo, on bouge, écrit par Marie-Josée Lacroix dans la revue Le Bel Âge de mai 2015.
Pour oublier que t'es parti, je mémorise. serez en ordre alphabétique. Les noms vulgaires et scientifiques de tous les oiseaux d'Amérique, National Géographique. Je m'ennuie. Je lis le dictionnaire de la mythologie et un magazine d'éco-piscine où je dessine au stylo B les jolies filles en mélusine. Et parfois je descends parmi les humains. Je marche dans la nuit en cherchant le visage d'un ami.
Alors, on s'en va en Grèce. Ouais, mais ça a l'air que c'est moins drôle que c'était en Grèce.
Hein.
Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le drame grec sous ses fenêtres. 74 rue de l'Harmonie, ça commence bien pourtant. Et c'est l'adresse de l'homme qui affronte l'Europe avec un programme anti-austérité depuis son élection.
Ah oui.
Le 25 janvier dernier en Grèce. Un modeste immeuble de 7 étages, recouvert de crépi beige, avec vue sur un terrain vague, parsemé de quelques bicoques à l'abandon, l'endroit n'a rien de luxueux. D'ailleurs, difficile de trouver mieux au cœur de Kypseli, l'un des faubourgs les plus mal famés d'Athènes. Surnommé la ruche, en raison de son impressionnante densité de population, le quartier est devenu une zone défavorisée que les Athéniens préfèrent bien souvent éviter. C'est pourtant là que le premier ministre de la Grèce, Alexis Tsipras, 40 ans, réside avec sa femme, ingénieure en électricité, et leurs enfants, Phébus Paul, 5 ans, et Orphée Ernesto, 2 ans, prénommé ainsi en hommage à Che Guevara, son idole. On est loin des opulents bâtiments du centre-ville que possèdent bien des politiciens grecs. Et le premier ministre, il est vrai, a été élu pour mettre fin aux mesures de rigueur imposées depuis 2010 par la Troïka, Commission européenne, Fonds monétaire international et Banque centrale européenne pour tenter de résoudre la crise de la dette. Il a choisi l'environnement modeste de sa jeunesse, un cadre qu'il a vu se dégrader depuis 5 ans, à mesure que s'amplifiait la catastrophe humanitaire de la Grèce. À proximité de l'appartement de la famille Tsipras, les stigmates de cette crise s'observent à chaque coin de rue, à commencer par les étiquettes jaunes qui tapissent les portes d'entrée de tous les bâtiments sans exception. 4, 5, parfois 6 autocollants par bâtiment sur lesquels on peut lire en majuscules rouges « À vendre ». Les ternes immeubles des années 70, placardés de graffitis, se sont en effet rapidement vidés de leurs habitants. Aujourd'hui, sans emploi, comme un jeune sur deux en Grèce, 50 % des jeunes. Stella Evgenikos, 26 ans, estime que le quartier s'est transformé en un ghetto de pauvres. On se croirait dans un pays du tiers-monde, alors que nous sommes au cœur d'une capitale européenne. Stella Evgenikos était vendeuse dans un magasin d'électroménager à Kipseli. Eh bien, les commerces, n'ayant pas été épargnés par la récession, un sur quatre a fermé dans le quartier. Le magasin a mis la clé sous la porte. Et depuis 6 mois, la jeune femme vit dans le noir. L'électricité étant devenue trop chère pour elle, près de 66 euros par mois pour son appartement de 52 mètres carrés. Et j'ai la chance de toucher une allocation de chômage de 360 euros puisque je suis sans emploi depuis moins d'un an. Et mon loyer est de 250 euros, donc ce qui me reste, je l'utilise pour m'acheter de quoi manger, dit-elle. Et sa facture d'électricité a presque doublé en quelques années alors que son pouvoir d'achat a diminué de moitié. La jeune femme héberge sa mère, retraitée, qui reçoit une petite pension de quelques centaines d'euros. Je m'éclaire à la bougie et j'utilise un petit réchaud pour cuisiner. J'ai l'impression de vivre au 19e siècle. Un vrai saut en arrière. Une situation pourtant loin d'être unique. Près de 10 % de la population vivrait sans électricité dans le pays, selon la compagnie publique d'électricité DEI. Stella Evgenikos parvient à s'en sortir en proposant ses services aux Noirs comme femme de ménage dans les quartiers les plus huppés de la capitale, mais elle constate que bon nombre de ses voisins ont sombré dans la misère. « Regardez devant le supermarché, c'est comme ça tous les soirs, dit-elle en ouvrant sa fenêtre, vers 21h30, juste après la fermeture du magasin. Les gens font les poubelles pour récupérer les invendus arrivés à leur date de péremption. Et parmi eux, une majorité d'immigrés, africains, albanais ou pakistanais, qui représentent près de la moitié des 150 000 habitants de la ruche, originaires du Ghana. Oui, Kwame, immigré clandestin. Il ne souhaite pas que son nom de famille soit mentionné, 32 ans, est arrivé en Grèce en 2007 après un parcours de combattant. Un avion jusqu'en Turquie, puis une périlleuse traversée en bateau d'Izmir à l'île de Chios, et payé environ 1000 $ au cours de laquelle plusieurs migrants sont morts noyés. Au départ, Kwame ne devait pas rester, il voulait rejoindre les Pays-Bas. Mais pour cela, selon les règles de l'Union européenne, il faut au préalable obtenir une carte de séjour. Mission quasi impossible en Grèce, où la bureaucratie est dépassée par l'afflux massif d'étrangers. Seuls 20 fonctionnaires permanents sont chargés d'examiner les 750 000 dossiers en attente.
750 000?
750 000, c'est pas loin du million. Le Ghanéen rêve... Alors, ils ne manqueront pas de travail, les fonctionnaires, eux autres. Ils sont sûrs d'avoir du travail, hein? Alors, le Ghanéen rêve qu'Alexis Tsipras tienne ses promesses d'améliorer le sort des migrants. Le nouvel homme fort du pays a déjà lancé des réformes ayant pour objectif la fermeture des centres de détention pour clandestins ou encore la naturalisation des enfants d'immigrés. Des mesures qui sont loin de faire l'unanimité, notamment auprès des Grecs indépendants, les alliés de la droite nationaliste du gouvernement, et plus largement au sein d'une partie de la population exaspéré par le nombre croissant d'immigrants clandestins. Alors, Kwame, qui survit en vendant à la sauvette des DVD piratés, espère que ces réformes feront évoluer les mentalités. Avec la crise, notre quotidien a changé dans le quartier. Les Grecs sont devenus très agressifs envers nous. On doit se cacher, explique le migrant, qui dort au sous-sol d'un petit immeuble en compagnie d'une dizaine de camarades d'infortune. Hier, des militants d'Aube dorée ont fait une descente à quelques rues de chez moi. Ils ont tabassé des amis avec des barres de fer. Il faut que Tsipras mette fin à cet enfer. Aube dorée est un parti d'extrême droite arrivé troisième aux dernières élections. Dit ouvertement vouloir nettoyer la ville des immigrés clandestins et régulièrement des milices armées s'attaquent aux vendeurs ambulants et aux squats d'étrangers. Alors, ça va pas très bien en Grèce, mais on croit en M. Tsipras, parce qu'on sait d'où il vient, et le fait qu'il habite parmi eux prouve qu'il n'est pas comme les autres politiciens, déconnecté de la réalité.
C'est dans l'actualité?
Dans l'actualité.
Alors, on y va avec des brèves. Le Gange en Inde, la grande dépollution. Comme bien des premiers ministres de l'Inde l'ont fait avant lui, Narendra Modi s'est engagé à nettoyer le Gange, l'un des fleuves les plus pollués de la planète, et il se donne 18 ans pour le faire. Mission impossible, estiment de nombreux écologistes. Chaque jour, ce cours d'eau de 2500 km reçoit les eaux usées de centaines de millions d'habitants, les résidus chimiques issus de l'agriculture et les rejets toxiques des tanneries, des papeteries et des distilleries installées sur ses rives. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le degré de pollution du Gange dépasse de 3000 fois la limite jugée sécuritaire pour la baignade. Autre obstacle, le Gange est sacré pour les hindous qui y accomplissent de nombreux rites religieux polluants. Ils lui remettent des offrandes emballées dans du plastique et abandonnent des cadavres dans ses flots. L'assainissement du Gange, qui fournit le quart des ressources en eau de l'Inde, fait partie des politiques de l'État depuis 1985. Pourtant, la qualité de l'eau continue de se détériorer. Corruption et manque de volonté politique seraient notamment en cause. C'est pas demain la veille qu'on va la nettoyer.
Non.
Et maintenant, un foyer pour personnes âgées aux Pays-Bas offre depuis quelques mois dans ses murs des logements gratuits à des étudiants. En échange, ces derniers s'engagent à consacrer 30 heures par mois aux pensionnaires de la maison. Ils peuvent leur rendre visite, discuter avec eux, les accompagner dans leurs déplacements ou faire leurs courses. Aux Pays-Bas, l'offre de logements pour retraités dépasse la demande, d'où cette ouverture aux étudiants.
Ouais. Voulez-vous un joint avec votre café? Une enquête du programme The Fifth Estate au réseau anglophone de Radio-Canada a découvert qu'il est extrêmement facile de se procurer de la marijuana de qualité médicale à Vancouver. Selon la loi, les boutiques spécialisées, souvent appelées clubs de compassion, ne peuvent vendre qu'à des détenteurs de prescriptions signées par un médecin. Mais dans les faits, un naturopathe ou un infirmier sur place peut prescrire en quelques minutes de la marijuana à un patient pour l'aider à relaxer ou combattre le stress. Bien qu'illégal, la police tolère cette pratique tant qu'elle reste discrète. Ironiquement, on dénombre plus de ces boutiques que de Tim Hortons.
Ah oui?
Ouais.
C'est étonnant un peu ça.
D'écouter Kiosque Magazine.
De retour avec le grand dossier de l'actualité du 15 mai, qui est l'enseignement des matières de base à l'âge du numérique. Lors de la dernière émission, je vous ai parlé de l'apprentissage de l'écriture cursive qui pourrait céder la place à l'écriture au clavier de l'ordinateur plutôt qu'à la main. Évidemment, le numérique s'insère aussi dans l'enseignement des mathématiques. Et à cet égard, Isabelle Grégoire a interviewé Conrad Wolf-Rahn, un mathématicien anglais. Isabelle Grégoire donne le titre « Libérez-nous du calcul » à son texte. Alors que les ordinateurs nous ont libérés de la nécessité de tout compter nous-mêmes, on enseigne toujours les maths comme autrefois. Une aberration, selon le mathématicien anglais Conrad Wolf-Rahn. Suer sur d'interminables équations n'est pas nécessaire pour comprendre les maths, estime cet homme de 44 ans. Pas plus qu'il ne faut comprendre les moindres détails de la mécanique automobile pour conduire en 2015. Il propose une véritable révolution dans la façon dont on enseigne les maths en utilisant les ordinateurs pour faire les calculs. Le décalage entre les maths enseignées à l'école et celles que l'on utilise dans la vraie vie est de plus en plus grand, dit-il. Il faut apprendre aux élèves à utiliser les maths de façon créative et pratique en leur faisant résoudre des problèmes qui les intéressent et en leur enseignant la programmation. Au Québec comme ailleurs, les élèves du secondaire s'échinent encore sur des calculs à la main. On dit aux élèves que les maths sont le sujet le plus important, mais c'est de loin le plus plate, déplore Marc Laforêt, professeur de mathématiques à Polytechnique Montréal, qui estime que les maths sont en partie à l'origine du décrochage scolaire. On pourrait enlever de grands pans du programme de maths au secondaire, ajoute Stéphane Cyr, professeur de didactique des mathématiques à l'UQAM. Certains contenus ont toujours leur raison d'être, mais d'autres ne sont là que par tradition, comme la théorie des graphes ou l'étude des vecteurs. Il faudrait, en revanche, accroître la place des statistiques appliquées et faire plus de géométrie synthétique et moins de géométrie analytique. Figurant parmi les 50 nouveaux radicaux de la Grande-Bretagne en 2012, selon l'hebdomadaire anglais The Observer, en raison de ses idées anticonformistes, Conrad Wolfrang a fondé une société qui promeut la mise en place d'un programme rénové de l'enseignement des maths. Premier pays à l'avoir adopté ce programme, l'Estonie, la Suède et la République de Maurice sont également sur les rangs. Conrad Wolfram est aussi chef de direction de Wolfram Research Europe, entreprise qui commercialise le logiciel de calcul Mathematica, mis au point par son frère Stephen, utilisé dans le monde entier, notamment dans les cégeps et universités du Québec. Alors, on l'a rencontré, il a donné cette interview à Isabelle Grégoire, ce monsieur Wolfram, W-O-L-F-R-A-M. Question qu'on lui pose, vous affirmez qu'il faut changer la façon dont on enseigne les mathématiques et surtout la matière enseignée, pourquoi maintenant? Réponse, les autorités publiques sont insatisfaites des résultats des élèves en maths. En dépit des sommes énormes investies pour améliorer l'apprentissage de cette matière, on manque de techniciens pour pourvoir les postes disponibles de personnes capables de résoudre des problèmes en utilisant les maths et les ordinateurs. La plupart des gens pensent qu'il suffit d'enseigner la même matière autrement. Or, c'est la matière elle-même qu'il faut changer, car le décalage entre les maths enseignées à l'école et celles dont on se sert dans la vraie vie n'a jamais été aussi grand. Les autres matières, le français par exemple, n'ont pas fondamentalement changé avec l'arrivée des ordinateurs, alors que c'est le cas pour les maths. On continue pourtant de les enseigner comme il y a 100 ans, en obligeant les élèves à faire des calculs à la main, alors que l'ordinateur pourrait les réaliser à leur place. Question. Pour beaucoup d'enseignants et de parents, apprendre à calculer à la main est pourtant essentiel pour progresser en mathématiques, et cela aiguise l'esprit, améliore la capacité d'abstraction, etc. Réponse, il est difficile de reconnaître qu'il est temps de passer à autre chose. En Grande-Bretagne, par exemple, la division longue est devenue une affaire d'État. Comment on divise en mathématiques les chiffres assez longs avec des décimaux et tout ça? Or, c'est complètement inutile. Personne n'en fait jamais dans la vraie vie. La plupart des gens apprennent cette procédure par cœur à l'école sans la comprendre. Pour favoriser l'apprentissage et stimuler le cerveau, il existe une foule d'exercices autrement plus stimulants que le calcul manuel. Question. Vos détracteurs rétorquent que l'utilisation des ordinateurs en classe risque de niveler l'éducation par le bas. Réponse. Ce que je propose, ce sont des cours de mathématiques basés sur l'utilisation de l'ordinateur et non pas assisté par l'ordinateur. Dans ce dernier cas, la matière enseignée reste la même et l'ordinateur assiste le professeur ou le remplace. Je suggère plutôt de l'utiliser pour ce qu'il est censé faire, le calcul. Alors, les enfants devraient-ils encore apprendre les tables de multiplication par cœur? Bien sûr, dit-il. Les tables de multiplication sont toujours utiles. La plupart des calculs manuels qui servent font appel à l'arithmétique mentale. Si vous êtes obligé de tout écrire à la main, il est plus pratique de le faire à l'ordinateur. Faut-il vraiment que les élèves passent des heures à multiplier à la main des nombres à quatre chiffres? Même chose pour les fractions. C'est important de comprendre le concept, ce l'est moins de multiplier deux fractions. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu besoin de multiplier 3/16 par 2/7? Alors, il pose des questions assez intéressantes. Libérez-nous du calcul, c'est Conrad Wolfrang qui a été interviewé et on a un compte-rendu de cette interview par Isabelle Grégoire dans l'actualité du 15 mai.
Tous les policiers vous le diront, si plus de gens lançaient un appel au secours lorsqu'ils se sentent menacés, il y aurait beaucoup moins d'agressions physiques. Voici quelques conseils de prudence pour vous assurer d'un retour vers votre voiture en toute sécurité. La nuit tombée et vous vous dirigez seul vers votre véhicule garé loin là-bas dans un stationnement décidément fort peu éclairé. Vous n'êtes guère rassuré, mais vous haussez les épaules et décidez de chasser ce mauvais pressentiment. Ce n'est que de la paranoïa, vous répétez-vous. Eh bien, à la suite d'agressions physiques survenues dans la rue, voici ce que les victimes confient aux policiers. J'aurais dû écouter ce mauvais feeling. Donc, la prochaine fois, il ne faut pas hésiter à composer le 911. Mieux vaut avoir l'air fou parce qu'il s'agit d'une fausse alerte que de se faire tuer. Les services policiers préfèrent de loin un appel non fondé plutôt que l'inaction se transformant en un triste rapport d'incident. Cela dit, on devrait d'abord s'attacher à réduire le nombre d'occasions où l'on se sent en danger. Ainsi, on opte autant que possible pour les places extérieures d'un stationnement situé, lui, à proximité d'un lieu achalandé comme un poste d'essence ou un restaurant. Et on mémorise bien l'emplacement pour ne pas avoir à le chercher au retour. Dans un stationnement souterrain, choisissez un endroit éclairé, là où il y a beaucoup de va-et-vient, soit près des escaliers ou des ascenseurs. Ne laissez rien à la vue dans votre véhicule, pas même des pièces de monnaie dans le porte-gobelet ou un disque compact sur le siège. Pour vous, ces articles peuvent sembler négligeables, mais ils pourraient en intéresser d'autres. Un autre truc. En quittant à pied le stationnement, on repère les dispositifs de sécurité. Postes des agents, caméras de surveillance, téléphones d'urgence. On ne voit rien de tout cela, on s'en informe auprès du propriétaire du stationnement ou on change d'endroit. En retournant à son véhicule, une fois la nuit tombée, on évite les raccourcis par de petites ruelles sombres. Tant pis s'il faut allonger son parcours. En marchant rapidement et en ayant l'air de quelqu'un qui sait où il va, on attire moins l'attention qu'une personne qui semble peu sûre d'elle. Le sac à main, il est préférable de le porter en bandoulière. Mais si un truand veut nous l'arracher, on ne se bat pas avec lui. Mieux vaut perdre son sac que sa vie. Le téléphone cellulaire se place dans la poche de notre vêtement, à portée de la main. Une autre poche reçoit les clés d'auto, ce qui évite d'avoir à les chercher nerveusement une fois à destination. Et aussi, une clé solidement maintenue entre deux doigts peut se transformer en arme de dernier recours. Vous vous sentez suivi. Accélérez le pas, changez de trottoir, dirigez-vous vers un lieu achalandé et n'hésitez pas à crier pour demander de l'aide. En approchant de votre véhicule, scrutez les environs. Des mouvements suspects, des louches personnages, il faut faire confiance à son instinct dans un tel cas et composer le 911, puis indiquer rapidement à l'opérateur l'endroit où l'on se trouve, ce qui devrait faire fuir les malfaiteurs. En ultime ressort, pourquoi ne pas demander à un collègue de vous accompagner jusqu'à votre véhicule ? Vous profiterez tous les deux d'un peu d'exercice avant que vous conduisiez votre partenaire à son point de départ ou à sa propre voiture. Personne pour vous escorter ? C'est simple, on prend un taxi et on demande au chauffeur de quitter les lieux seulement après qu'on aura démarré. Que penser des répulsifs à ours ? Rappelons que le poivre de Cayenne est interdit. Ces vaporisateurs peuvent se retourner contre nous si on ne les manipule pas convenablement ou si le vent souffle dans notre direction.
Les répulseurs à ours.
Oui, répulsifs ici. Il vaut mieux utiliser un sifflet d'alerte. L'idéal, on enfonce la touche panique de notre télécommande de déverrouillage si notre véhicule ne se trouve à proximité. Dernière précaution, une fois dans votre voiture, vous assurez d'abord que personne ne se dissimule dans l'habitacle. De tels scénarios cauchemardesques, ça n'arrive pas que dans les films d'horreur. Puis, lorsque vous serez en sécurité dans votre automobile, n'ouvrez sous aucun prétexte la portière ou la fenêtre à quiconque en fait la demande. Il y a toujours moyen de se faire comprendre au travers d'une vitre et de promettre à l'inconnu qui demande de l'aide qu'on communiquera avec les services d'urgence. Voilà, c'était donc « Mauvais pressentiment, on l'écoute », un article écrit par Nadine Filion, spécialiste automobile, dans la revue « Le Bel Âge » de mai 2015. Alors maintenant, une réponse légale à une situation qui peut se présenter à vous. C'est écrit par Jacqueline Simoneau dans « Le Bel Âge », toujours de mai 2015. Vous avez donné un acompte de 75$ sur le prix d'un fauteuil, mais vous ne voulez plus l'acheter. Est-ce que le commerçant est tenu de vous rembourser ? Non. Quand vous donnez un acompte, vous faites une promesse d'achat. Or, il n'existe aucune loi obligeant un commerçant à offrir une politique de remboursement à ses clients. Seule contrainte, il n'a pas le droit de déterminer à l'avance la pénalité qu'il réclamera en cas d'annulation, y compris lors de la mise de côté. Donc, si vous décidez de ne plus acheter le fauteuil, le commerçant a le droit de garder votre acompte ou de vous réclamer une somme d'argent pour compenser les dommages subis en raison de l'annulation. Il peut même vous obliger à acheter l'article que vous avez fait mettre de côté s'il correspond à ce que vous avez demandé et s'il n'est pas défectueux. Toutefois, par souci de garder leur clientèle, la plupart des commerçants vont proposer une note de crédit correspondant au montant de l'acompte pour l'achat d'un autre article en magasin. Cela s'applique aux meubles, aux vêtements, aux électroménagers, aux voitures. Conseil, avant de réserver un article et de laisser un acompte, informez-vous toujours sur la politique de mise de côté en vigueur chez le commerçant. Aussi, entendez-vous avec ce dernier pour donner un petit acompte, le plus petit acompte possible, environ 10% du prix. Tentez d'obtenir du commerçant qu'il écrive sur la facture qu'il s'engage à rembourser votre acompte et à annuler la vente si vous changez d'avis. Vous donnez un acompte sur le prix d'un article qui n'est pas en magasin ou que vous payerez à la livraison, alors faites écrire sur la facture la date à laquelle l'article doit arriver en magasin ou être livré. Demandez au commerçant d'ajouter qu'il s'engage à rembourser votre acompte si l'article n'est pas celui que vous avez commandé ou encore s'il est arrivé ou livré à la date prévue. S'il n'est pas arrivé ou livré à la date prévue. Voilà un petit conseil donc, écrit par Jacqueline Simoneau.
J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu. Mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
C'était poétique et romantal.
Oh!
Alors, mieux vaut prévenir. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui.
Eh bien, ils ont fait une enquête sur les déménageurs la revue Protégez-vous.
Bon,
alors, pour cette fois, vos amis ont décliné l'invitation. Même la promesse d'une bonne pizza et d'une bière bien fraîche n'a pas réussi à les convaincre de vous aider à déménager. Vous allez devoir confier vos biens à une entreprise. Voici tout ce qu'il faut prévoir pour bien la choisir. 1. La durée du déménagement. Peu importe le montant de la soumission, toutes les entreprises interrogées dans notre enquête facturent selon la durée réelle du déménagement. Autrement dit, s'il faut plus d'heures que prévu, vous paierez le dépassement. Pour que l'estimation soit aussi précise que possible, il faut fournir de nombreux renseignements qui vous éviteront des mauvaises surprises au moment de payer la facture finale, dit Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Les grandes règles à suivre.
On écoute.
Contactez au moins 3 entreprises pour pouvoir comparer leurs estimations. Alors, Amber Movers, déménagement à la capitale, déménagement Martineau Movers Incorporé. Vous en avez 3 ici là, qui sont parmi les meilleurs.
Et le clan Panton?
Clan Panton, il arrive en 7e place.
Ah oui, merci.
Ouais. Hein, c'est bon à savoir. Hein? Mm-hmm. Ensuite, il y a déménagement Alex La Jeunesse. Oui, ça c'est à Québec. À Montréal, c'est Amber Movers, déménagement à la capitale, déménagement Martineau Movers Incorporé. C'est bon?
OK, merci.
Vous avez pris ça en note, c'est bien. Alors, donnez-leur la liste de vos biens, l'adresse et la superficie exacte du logement que vous quittez, ça va, et de celui où vous aménagez, pas trop compliqué, la configuration et le nombre de pièces des 2 endroits. Ça, c'est de l'arithmétique, ça, monsieur. Des renseignements sur l'accessibilité des rues, s'il y a des interdictions de stationnement devant les bâtiments, par exemple. Si vous habitez en copropriété ou en appartement, n'oubliez pas de préciser de quel étage vous partez et à quel étage vous allez. Très important. S'il y a un ascenseur ou si la cage d'escalier est assez large et sera accessible le jour prévu. Et malgré tout, les coûts supplémentaires pour dépassement de temps sont monnaie courante dans l'industrie, rappelle Sylvie Bonnet. Il peut y avoir de nombreuses causes qui n'ont rien à voir avec la bonne volonté des deux parties, indique Marc Cadieux. Mais c'est là que parfois la discorde s'installe. Ouais. Malgré tout, c'est ça. Mais c'est là que parfois la discorde s'installe, comme je disais. Rappelez-vous néanmoins que tout commerçant doit vous fournir un service conforme à l'entente qu'il a prise avec vous. Ça signifie notamment qu'il ne peut pas exiger un prix supérieur à celui indiqué dans le contrat. Okay? Si vous n'êtes pas d'accord sur le montant final, payez tout de même en inscrivant sous réserve ou sous protêt sur le chèque ou la copie de facture remise au déménageur, conseille Sylvie Bonnet. Ça signifie que vous contesterez plus tard le montant payé. Si vous retenez l'argent, le déménageur pourra garder certains de vos biens. Et c'est là que la chicane pogne. Alors, quoi vérifier? Une évaluation par téléphone ou à domicile? Seulement 5 compagnies ont proposé de faire une évaluation gratuite à domicile. Les autres ont effectué l'estimation par téléphone. La visite est pourtant cruciale. Même si elles ont un nombre de pièces comparables, les superficies des maisons varient beaucoup, affirme Frédéric Girard, superviseur administratif à déménagement à la capitale. Plus votre résidence est grande, plus vous devriez insister. Le nombre d'heures. Pour calculer la durée, le principe de une pièce égale une heure de déménagement, semble faire l'unanimité dans l'industrie, selon l'enquête. Oui. Un cabanon compte également pour une pièce, donc une heure. Les compagnies ajoutent en général une heure pour un déplacement local. Demandez s'il y a des frais supplémentaires liés à un dépassement du kilométrage ou du temps de transport pour se rendre de l'entreprise à votre point de départ, recommande Sylvie Bonnet. Vous pouvez même fournir aux déménageurs un plan du trajet le plus court entre votre ancien et votre nouveau domicile. Ouais, quoi vérifier? Le prix contre la date du déménagement. Pour ne pas payer le prix fort, des solutions existent. Si vous avez la possibilité de choisir le jour de votre déménagement, évitez le 1er juillet et les jours qui précèdent. Le taux horaire de certaines compagnies revient à la normale dès le 2 juillet. Ainsi, la capitale Montréal exige $260 de l'heure le 1er juillet, mais 180 le 2 et 135 le 3.
Voyons donc.
Ah, oui, oui, voyons donc. Et par ailleurs, en magasinant votre compagnie le plus tôt possible dans l'année, vous aurez l'embarras du choix et pourrez réserver le déménageur qui profite le moins de la situation. Alors voilà, dans la revue Protégez-vous du mois de mai, vous avez d'autres vérifications que vous pouvez faire à cela, que cela vous tienne. Hein?
Bon. C'est bien. Mmh. Dans les brèves, je commence par un texte sur l'obésité. Plus on en parle, point de suspension, plus les femmes se font critiquer à propos de leur poids, plus elles grossissent, ont découvert des chercheurs de l'Université de Waterloo en Ontario. Ces derniers ont sondé un groupe de femmes à deux reprises à 5 mois d'intervalle. Celles qui ont déclaré avoir été critiquées pour leur poids au cours de cette période ont grossi en moyenne de 2 kilos. Les autres ont soit maintenu leur poids, soit légèrement maigri. Ces résultats n'étonnent pas Fanny Dagenais, nutritionniste et directrice de l'organisme Équilibre, dont la mission est de prévoir et de faire diminuer les problèmes liés au poids et à l'image. Ces commentaires omniprésents sont déplorables, même si l'intention est souvent de motiver la personne à se mettre en forme, dit-elle.
Et pour les hommes?
Oui, c'est vrai, hein? Je pense qu'il manque quelque chose au texte.
Alors, 511 254, c'est le nombre de bibles en format audio numérique distribuées jusqu'à maintenant aux troupes de l'armée américaine. L'organisme Faith Comes by Hearing, qui répand la bonne parole au moyen de livres audio, estime que les militaires, dont la moyenne d'âge est de 22 ans, font partie d'une génération peu encline à la lecture, donc plus à même de préférer se faire lire les Saintes Écritures.
Bon, et si je m'adresse aux 2 millions possibles d'auditeurs que nous avons, puisqu'il y a 413 900 déménagements qui ont eu lieu au Québec en 2014, et environ le tiers des demandes de changement d'adresse à Hydro-Québec, soit 137 900, provenaient de clients montréalais.
Ah ouais?
Vous savez qu'il y a des frais supplémentaires. Hein? Certaines entreprises facturent des frais additionnels pour déménager un meuble en acier inoxydable, un miroir ou encore une table en verre. Alors, renseignez-vous.
Un piano, pas marqué?
À queue.
Prenez une grande inspiration. Certains le mangent en tablette, d'autres y trempent des fruits, d'autres encore le boivent bien chaud. Mais si l'on se fie à Dominique Persone, P-E-R-S-O-O-N-E, de plus en plus de gens consomment leur chocolat par les narines. Ce chocolatier belge, reconnu pour son excentricité, a conçu un inhalateur qui permet de sniffer une poudre à base de cacao aromatisée à la menthe, à la framboise ou au gingembre, une façon de gâter son nez et d'avoir un peu de plaisir, dit-il.
Ça doit être beau dans le cerveau, ça. Paquet de chocolat.
Après le chocolat, les cigarettes. Par ici, les mégots. À Namur, en Belgique, jeter ses mégots par terre est désormais bien vu. La ville a en effet installé une quarantaine de cendriers dans les trottoirs. En plus d'être discrets, ils peuvent contenir 10 fois plus de mégots que les traditionnels modèles muraux.
Oui. Puis vous pensez déménager? Moi, j'ai pas fini sur le déménagement. Hein. Alors, les déménagements qui virent au cauchemar ne sont pas une légende urbaine. Premier conseil, méfiez-vous des petites annonces et en particulier des individus qui n'affichent sur Internet qu'un simple numéro de téléphone, affirme Marc Cadieux, président directeur général de l'Association du camionnage du Québec. Ils n'ont souvent pas l'équipement et les assurances nécessaires. Choisissez plutôt une entreprise qui a pignon sur rue.
Oui. Voilà. Alors, un lait, un sucre, zéro culpabilité. De quoi parle-t-on? Vous préparez votre café à l'aide de dosettes, mais vous vous sentez coupable de la pollution qu'elle génère. Le géant du recyclage TerraCycle a pensé à vous en concevant une boîte de recyclage pour ses déchets.
Une fois qu'elle est remplie, on la retourne à l'entreprise qui en revalorisera le contenu. Le prix de la boîte, 50 $, incluant les frais de transport. On ne dit pas si...
Non, on va payer pour la boîte.
Oui, je pense que oui.
C'est ça.
Alors, ne touchez pas. Posez les mains sur la Mona Lisa. C'est ce que propose à ses visiteurs le musée du Prado à Madrid. 6 chefs-d'œuvre, dont la Joconde, ont été reproduits à l'aide d'une imprimante 3D pour cette exposition. Leur surface texturée permet aux aveugles d'apprécier la composition des tableaux. Cette exposition touche le Prado est en cours jusqu'au 28 juin.
Bon, alors voilà. Et puis, certaines entreprises facturent des frais additionnels pour déménager. Alors, faites attention, s'il vous plaît. Regardez, c'est parce que c'est écrit en bas, en tout petit, dans les soumissions de déménagement.
Comme les contrats d'assurance, oui.
Alors, nous
alors
avons terminé.
C'était le kiosque magazine de ce 25 mai, je crois.
Oui, c'était très joli.
Alors, nous espérons que ce que nous avons proposé était intéressant pour vous. Au revoir et à la prochaine.